parler pour que les enfants écoutent. Et les autres aussi. Parler pour que les enfants écoutent, un dialogue sans issue de secours. Stressée et préoccupée ces derniers temps, je dors mal. Je peine à récupérer mes énergies, surtout le soir. J'aurais juste envie d'être laissée tranquille. Mais j'ai des enfants, qui eux aussi sont stressés et préoccupés par réflexe. Leur baguette magique, eh ben, maman. Il faut sortir, nous sommes en retard. Mon cerveau se renferme sur ses pensées circulaires. Arrête ! Tu t'habilles ? Va te brosser les dents ! Mais qu'est-ce qui vous prend à sauter sur le lit ? Stop, j'ai dit ! Un des trois, tu arrêtes tout de suite ! Je regarde ma montre. En retard encore une fois. C'est pas possible ! Je vous réveille tous les jours plus tôt et nous sommes toujours en retard. Je sens toute mon impuissance et ma frustration monter. Mais renfermer le néocortex sous l'amorce des émotions libérées. Sauf que, bien évidemment, tout ça ne fait pas bouger mes enfants plus vite. Quand enfin nous rentrons dans l'ascenseur, je respire. Je regarde mes enfants mi-endormis, les yeux pleins d'un mix de tristesse et fatigue. Ma tendresse de maman remplace la panique du retard infini. Et voilà, je sens la culpabilité monter. Pourquoi j'écris comme ça? Je sais que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, j'ai tout essayé, la douceur comme la force. Comment parler pour que les enfants écoutent? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma manière de communiquer? Changer soi-même avant de changer l'autre. Il n'y a qu'un seul coin de l'univers que vous êtes capable d'améliorer avec certitude. Et c'est vous-même. Tout simple. Quand je me suis rendu compte que je m'attendais que mes enfants changent, alors que c'était moi qui ressentais le problème, j'ai eu le premier déclic. Car ça paraît simple, mais ça révolutionne tout. Au lieu de râler car les choses ne vont pas comme on le souhaite, on en devient responsable. Et donc, je peux intervenir et trouver une solution au lieu d'attendre que des conditions extérieures se réalisent, type que mes enfants grandissent, qu'ils soient plus autonomes, etc. Je ne peux pas changer mes enfants. Par contre, je ne supporte plus de parler au mur. Ça ne t'arrive jamais d'avoir cette sensation que personne ne t'écoute. Alors que je m'interroge sur les défauts de mes enfants et leurs possibles causes, une chose me frappe. Si quelqu'un m'avait envahi le début de la journée en me lançant tout ce que je leur viens de balancer, j'aurais pas vraiment envie de collaborer ou répondre en douceur. Peut-être donc, il faut que je répare de moi, encore une fois. Ben, devenir parent est avant tout un travail sur soi, n'est-ce pas? Pour parler, pour que les enfants écoutent, il faut que mes attentes soient raisonnables. Demander à un enfant de 3 ans de ne pas bouger ou de ne pas rigoler à haute voix, c'est assez contraire à sa nature. J'ai lu un article très intéressant à ce sujet, écrit par une blogueuse américaine, qui suggérait qu'une des raisons pour lesquelles nos enfants ne nous écoutent pas est parce que nous ne les faisons pas assez bouger et jouer à l'extérieur. Selon Angela Hanscom, auteure et ergothérapeute pédiatrique, un enfant de 3 ans aurait besoin de mouvement et jeux libres en extérieur pour 5 à 8 heures par jour. Les défis physiques que les enfants rencontrent en jouant et en prenant des risques les aident à maîtriser leur corps en développant le sens vestibulaire et des proprioceptions. Mais qu'est-ce que c'est ça? Les systèmes vestibulaires règlent les sensations données par notre corps en mouvement et en équilibre, quand on tourne et on est sujet à la gravité, etc. Les organes correspondants se trouvent dans l'oreille intérieure. La proprioception désigne la perception de la position de nos différentes parties du corps. Pour que les enfants se concentrent, nous écoutent et puissent rester tranquilles, ils doivent avoir suffisamment développé et le sens vestibulaire et la proprioception. Les deux se forment en général avant 6 ans à travers l'expérimentation corporelle. Bon, 8 heures de jeu extérieur est assez irréaliste. Par contre, il est vrai que si nous remplaçons cela par des heures assis, que ce soit en classe ou devant un écran, le besoin d'activité ressortira après quand on leur demandera de rester assis à table ou d'éviter de prendre la salle de bain pour une piscine. J'ai résolu ces problèmes en faisant essuyer à mes enfants. Ils prennent toujours la salle de bain pour une piscine, mais au moins, ce n'est pas à moi de faire le boulot. J'ai essayé de me mettre à la place de mes enfants avec toute mon empathie et compréhension. Je les réveille en douceur, mais 3 minutes après, je commence à leur demander de faire vite. Or, faire vite n'a aucun sens pour eux, puisqu'ils n'ont pas encore compris qu'une minute ou une heure implique. Et il est bien plus intéressant de danser, chanter, entre un pantalon et une chaussette, au lieu de s'habiller mécaniquement comme j'essaye de leur apprendre. D'accord. Mais alors, on oublie les règles? Quand se faire écouter rime avec donner des ordres. C'est sûr que si la plupart de nos conversations avec les enfants sont constituées par des ordres, ça ne donne pas très envie, n'est-ce pas? Chez nous, il y a ce moment de quiétude magique lorsque nous prenons notre petit déjeuner et nous nous racontons nos rêves. Alors, tous les trois assis à table, la tête encore appuyée sur les bras, entre une cuillère de lait et l'autre, nous sommes réellement ensemble. Je me vois par contre commencer à « Courage, regardez les guilles, terminez votre petit déj, allez, vous habillez !» Le lien se brise. Je le ressens maintenant que je m'observe de l'extérieur. Les oreilles n'écoutent plus. Premier changement. Parler avec l'autre, au lieu de parler à l'autre. S'observer, s'écouter, être ensemble. Avoir une conversation au lieu d'une mitraillette des commandes. Je me déplace dans ma chambre pour m'habiller et quand je reviens, ma fille est sous les couettes. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ne reste pas dans ton lit !» Deuxième changement. Non seulement je ne fais que donner des ordres, je les pose au négatif. Ne pas ci, ne pas ça, de quoi organiser une subordination, en effet. Et si j'ai transformé mes phrases au positif, qu'est-ce que ça donnerait? Quand se faire écouter rime avec critiquer. Je vais dans la salle de bain. Ma fille pleurniche et me suit. Comment est-il possible que tu ne saches pas encore t'habiller toute seule? On passe à la critique lourde. Je vois mes mots entrer par une oreille et sortir de l'autre, avec le seul effet de briser un peu l'estime de ma fille, mais sans pour autant l'avoir convaincue à se préparer vite et en autonomie. Mais tu ne fais jamais ce que je te demande! Tu, pas de réponse de l'autre part, of course. Troisième changement. Je me mords la langue. Si, il faut vraiment se taire, respirer, prendre du temps, et puis, inversion des tendances. Je parle de moi. On revient à ça tout de suite. Quand se faire écouter rime avec crier. Bon là, je suis au bout. Il faut sortir! Tu veux sortir en pyjama? Et puis là ça ressort. Je ne suis pas la seule à craquer, rassure-moi. Je crie. Car je veux sortir à l'heure. Car j'en ai marre. Car dès que je m'éloigne, des enfants se mettent à jouer ou chanter et ils oublient ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis c'est moi qui dois courir. Sauf que crier, dans la meilleure des hypothèses, fait pleurer mon fils. Dans la pire, n'a aucun effet. Juste plomber l'ambiance alors que mes gosses faisaient juste leur boulot. Jouer. Quatrième changement. Je dors un peu plus. Eh oui, et je délègue. Pas toujours possible, je sais. Et j'essaye de garder les cris pour les urgences. Je demande pardon quand je me perds encore une fois. Parler pour que les enfants écoutent implique ménager sa posture. Quand parler pour que les enfants écoutent implique changer. Perdu dans l'analyse de nos propres points de vue, nous oublions vite de considérer qu'une conversation, ça ne se fait pas tout seul, et que parler pour que les enfants écoutent, pour que n'importe quel interlocuteur nous écoute en fait, implique établir une connexion empathique. Si mon ami répondait à ma confession de chagrin en me reprochant « Mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu ne l'as pas encore compris? Comment il faut faire? Pas possible oh !» Probablement, elle ne serait plus ma copine après. Or souvent, nous demandons à nos enfants de nous écouter alors que nous ne les écoutons pas et que nous ne faisons pas non plus trop d'efforts pour nous faire écouter. Je m'explique. Nous avons vu que l'enfant, avant 5-6 ans, ne voit pas du tout la réalité comme nous. Et en plus à ça, sa compréhension de ses propres émotions et leurs expressions est encore limitée. Soyons honnêtes, parfois c'est difficile pour nous aussi. Ils expriment donc beaucoup avec leur corps. Chaque geste est un message, plus ou moins caché, qui nous envoie pour que nous le comprenions, et si possible, pour que nous le lui expliquions. L'enfant va continuer à nous envoyer ses messages jusqu'à ce que nous montrons de les avoir compris. Je sais bien que penser à décrypter un message lorsque ton enfant donne des coups de pied quand tu l'habilles, ou lorsqu'il se jette par terre en hurlant au milieu du trottoir, c'est très, très dur. Savoir écouter signifie comprendre le besoin caché de notre enfant qui a généré cette explosion d'émotions exprimées à travers son comportement. Plutôt contraire en général à ce qu'on lui demande de tenir. Ça veut dire aussi comprendre notre propre besoin et apprendre à l'exprimer à l'enfant au lieu de ne lui renvoyer que des accusations et des critiques. Je me suis écoutée. Je me suis mise dans la peau de mes petits, qui n'ont aucune envie de faire vite et sortir, qui veulent juste se blottir contre moi et prendre leur temps, et qui doivent faire face à une maman qui leur met la pression alors qu'il est encore sombre dehors. Pas drôle, n'est-ce pas? Je l'avoue, malgré mes efforts, ça m'a pris des mois pour vraiment arriver à prendre du recul et voir l'autre côté de la situation. Mais tout changement profond nécessite du temps et sera très efficace sur du long terme, j'en suis sûre. Comment parler pour que les autres écoutent? Des exemples. Parler de soi au lieu qu'accuser ou donner des ordres offre beaucoup d'avantages. Déjà, quand nous accusons quelqu'un, notre interlocuteur aura tendance à se mettre sur la défensive au lieu d'écouter et d'exécuter notre demande. Quand nous parlons de nous, de nos besoins et des besoins de l'autre, nous créons des liens empathiques qui soignent notre relation. Cela est vrai pour les enfants comme pour les adultes. Quand nous donnons des ordres, nous n'avons au fond aucun moyen de nous faire obéir. Oui, nous pouvons menacer, punir, et notre enfant finira peut-être par céder par peur ou honte, ce qui n'est pas génial ni pour leur estime de soi, ni pour une relation saine avec nous, ni pour leur cerveau. Par contre, si nous parlons de nous et de qu'est-ce que nous allons faire, là, nous avons le pouvoir d'intervenir. Car, rappelons-nous, nous ne pouvons pas agir sur l'autre, mais sur nous-mêmes, oh oui. Un seul inconvénient, c'est plus difficile à mettre en pratique, parce que nous n'y sommes pas habitués, et nous devons donc y penser, au lieu de lancer notre pilote automatique. Mon conseil? Entraîne-toi avec une seule situation à la fois. Mémorise certaines des phrases ci-dessous, et travaille sur une ou deux qui marchent bien pour toi et ta situation, avant de penser à la situation suivante. Donc en concret, les phrases. Au lieu de « Mais arrête de bouger, comment tu veux que je puisse t'habiller si tu bouges comme ça ?» On peut dire « Je vois que tu es agité. Peut-être tu aurais envie de jouer au lieu d'être pressé comme ça. » On peut faire comme ça. Je compte jusqu'à 10 et on voit si entre-temps on arrive à se mettre pantalon et t-shirt. Et si on y arrive, on pourra faire un tour de cache-cache. Ça te va? C'est pas possible, tu es encore en pyjama. Je t'avais demandé de t'habiller il y a 10 minutes, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as 5 ans, c'est pas possible que tu ne sois pas encore capable de t'habiller tout seul. Là, on peut essayer avec. Tu sais, quand je vois que tu as ignoré ma demande de t'habiller et que tu traînes dans ton lit, je ressens beaucoup d'énervement. J'ai vraiment besoin que l'on soit à l'heure le matin. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tu t'habilles en autonomie? Tu as envie d'être câliné par moi? Ça te dérange que j'aide ton petit frère mais pas toi, c'est ça? Alors j'ai aussi envie de passer du temps avec toi, mais je préférerais que nous fassions plutôt un jeu ensemble une fois que tu te seras habillé, ok? Autre situation. Tu ne manges vraiment rien, j'ai préparé ça exprès pour toi. Tu sais combien d'enfants n'ont rien à manger? Ça peut être remplacé par. Tu peux manger tout ce qui est sur la table. Tu peux choisir, prends ton temps. Je vais débarrasser la table quand Lady sera là. Moi, je mange, car je vais être sûre de ne pas avoir faim avant le prochain repas. Je vais avoir toutes mes énergies pour pouvoir jouer. Lève-toi et viens prendre ton petit-déj, nous sommes en retard. Tu peux te coucher plus tôt la prochaine fois. Ça passera mieux comme ça. Tu veux que je te prenne dans mes bras pour aller dans la cuisine ensemble ou tu préfères te lever tout seul à ton rythme? Je laisse le petit déjeuner sur la table encore 10 minutes. Quelques consignes pratiques. Mets-toi au niveau de ton enfant. Regarde-le dans les yeux. Recherche un contact. N'écris surtout pas de l'autre bout de l'appartement. Les enfants ont une vision périphérique limitée. S'ils sont en train de jouer, ils oublient tout le reste, mais pas pour une mauvaise volonté. Exprime la demande de façon positive. Si besoin, manifeste ton propre besoin, ton émotion et fais ta demande. Verbalise également le besoin de l'enfant pour lui manifester clairement que nous le comprenons. Ça l'aidera aussi à clarifier à lui-même ses propres sensations. Garde si possible ton calme et quand ça part en cacahuète, excuse-toi après. Essaye toutes les techniques de collaboration, les jeux, le choix, un challenge. Prépare ton enfant avant chaque nouvelle étape. S'il est en train de jouer, préviens-le 5 minutes avant qu'il devra bientôt arrêter pour passer à autre chose. Utilise un timer si besoin pour lui donner un moyen de vérifier tout seul le passage du temps. Implique-le dans la constitution du routine. Il y a différentes manières de faire ça avec des cartes, des dessins. Ce que j'ai personnellement testé, prendre un bout de papier, s'asseoir avec les enfants et leur demander « Qu'est-ce qu'avez-vous besoin de faire pour vous préparer avant de vous coucher ?» Alors j'ai écrit ce qu'il me disait et ma fille a fait des dessins correspondants à côté. Nous avons alors choisi un endroit bien visible où les peindre. Et à chaque soir, je demande d'aller contrôler sur la liste. À partir de 5 ans, ça marche très bien. Ce qui me ramène, au lieu de donner des ordres, pose des questions. Qu'est-ce qu'il te faut pour aller à l'école? De quoi tu penses avoir besoin? Alors, on recommence? Je sais, se lever le matin, c'est très dur. Je comprends. J'ai eu du mal à me lever aussi. Tu aimerais jouer encore un peu avec moi au lieu de te préparer et te coucher. Je vois que tu es en colère. Mais tu vois, je me sens moi aussi en colère quand je vois que tu ne te prépares pas. Car j'ai l'impression de devoir tout faire moi et que tu ne m'aides pas. Alors, je pense que nous pourrions passer du temps agréable ensemble si nous collaborons. Eh oui, parler pour que les enfants écoutent nécessite parfois plus de temps de préparation. Tu dois penser à te reposer, te poser, prendre du recul. Ça te demande de réfléchir à tes besoins, ce qui n'est pas évident. Mais voilà, parler pour que les enfants écoutent implique tisser des vrais liens avec toi-même et avec ton entourage. Tu verras, c'est un bon entraînement pour améliorer ta communication avec les adultes aussi. Car quand nous changeons, tout change.